déguster sur France Inter.
Étant donné le nombre de plantes, on dit qu'il y en a toujours une qui veut vous faire du bien. Mais les proportions sont telles qu'aucune ne peut vous faire du mal.
Très belle définition de cette liqueur chartreuse. La chartreuse au-delà du silence, ce fut un documentaire diffusé il y a quelques temps sur France 3. C'est une belle définition, c'est-à-dire qu'il y a, les plantes sont en bonne proportion pour nous faire forcément du bien. Bon, il faut pas oublier évidemment que c'est un alcool à consommer par conséquent avec modération, n'est-ce pas Antoine Gerbel? Cet élixir, hein, vous l'avez versé dans nos verres.
Voilà, alors là déjà, voilà, on est à la radio, donc profitez de l'image. Oui. Une couleur incroyable, changeante, variante, multipliée. C'est un peu ça l'histoire de la chartreuse. Alors la chartreuse, c'est un grand succès, mais un succès qui n'est pas si récent, mais un succès en ce moment incroyable. Alors la chartreuse, moi je me souviens enfin de cet alcool qui était dans le placard de ma grand-mère, avec la bouteille un peu sucrée, le bouchon qui était ouvert depuis je ne sais pas combien de temps. Et quand ses amis venaient, ma grand-mère servait son petit doigt de chartreuse. J'en avais absolument pas envie. Ça me repoussait, cette odeur était très violente. En tant que amateur de vin, j'ai découvert la chartreuse à reculons, oui. Vraiment, parce que je trouvais ça beaucoup trop sucré. Mais j'ai commencé à m'y intéresser parce que des gens comme Olivier Poussier, un autre grand sommelier français, meilleur sommelier du monde, me disaient « mais tu ne connais pas les vertus de la chartreuse, il faut que tu goûtes des vieilles chartreuses ». Alors effectivement, j'ai commencé à goûter des vieilles chartreuses, mais rarement et difficilement, puisque il faut rappeler quelques étapes. Mm-hmm. Parce que bon, voilà, les frères Chartreux, ils se sont installés donc du côté de Voiron, hein, on est à côté de Grenoble. Commence à distiller à 1860-1903. Cette recette de la chartreuse, elle circulait sinon, on la remonte, bon voilà, il y a le général d'Estrées qui en serait l'inventeur, mais les moines vraiment se l'approprient. Après cette période-là, il y a 1903, rupture entre bien évidemment l'Église et l'État. Les chartreuses sont virées violemment, hein. c'est une période très difficile, et ils se réfugient à Tarragone, en Catalogne, en Espagne. Et là, une nouvelle étape commence, 1903-1989. Et là, s'élabore ce qu'on appelle une chartreuse Tarragone, ce que les spécialistes appellent la Tarragone, quand ils disent la Tarragone, c'est une chartreuse mais qui n'est pas élaborée en France, mais en Espagne, et qui a la particularité d'être distillée, non pas avec de l'alcool un peu tout venant comme en France, betterave, on va dire principalement. Non, les Espagnols, l'alcool vinique ne coûte pas cher, donc c'est de l'alcool de vin, donc ça modifie un peu le goût. Et surtout, c'est dans des vieillissements, toujours des longs vieillissements, mais en Espagne, il fait plus chaud, donc il y a une conçue, une part des anges plus importante, et ça, un goût. Et là, commence à y avoir des amateurs, des chefs, des sommeliers qui disent, mais qu'est-ce que c'est que ce goût de Tarragone? Et ils commencent à faire des dégustations au long cours, mais des grandes dégustations de 50, 60 millésimes, parce qu'il y a un millésime derrière chaque bouteille de chartreuse. Et puis après, il y a une période, 1920-1929, ça s'appelle la Marseillaise. Alors là, les moines n'ont toujours pas le droit de récupérer le droit de faire leur liqueur, mais ils ont le droit de l'assembler. Et sur Marseille, ils assemblent et il y a la chartreuse, la Marseillaise, qui aussi fait rélever les collectionneurs. Et à partir de 1935, jusqu'à nos jours, ils reviennent à Voiron et ils produisent. Et ils viennent juste, mais très récemment, fin 2017, de déménager la distillerie d'Aigues-Noires, donc on n'est plus vraiment, on est à quelques kilomètres hein, du monastère, mais voilà, cette histoire, pourquoi raconter cette histoire? Parce que la chartreuse est le seul alcool qui vieillit dans le temps. Quand vous mettez une bouteille de whisky, distillé, et c'est ça, c'est-à-dire que les passionnés d'évolution du goût dans le temps ont découvert ça, mais depuis récemment, parce que l'histoire de la chartreuse, au début, on regarde dans les années 50, par exemple, c'est une base de cocktail. D'ailleurs, il revient aujourd'hui très à la mode par les cocktails.
Ce qui est drôle, c'est de voir d'ailleurs, pardon,
c'est cordial,
c'est de voir les bartenders, comme on dit, d'à New York, un peu hipster avec des tatouages partout sur les bras, en train justement de mélanger de la chartreuse avec toute une série
c'est la famille de l'eau de cocktails
aussi, non?
Bien sûr, mais le rebond, il est incroyable. Souvenez-vous, dans Boulevard de la Mort, le film de Tarantino, il y a comme Tarantino, à un moment, il dit, qu'est-ce que c'est? What the fuck is it? Et il dit, chartreuse. Et il dit, la seule liqueur si bonne qu'elle a donné son nom à une couleur.
Ah oui, c'est quand même
sympa. ZZ Top, le groupe rock américain, a fait une chanson dédiée à la chartreuse. Donc là, il y a un redémarrage incroyable. incroyable, parce que surtout par les cocktails, et puis cette passion des amateurs qui cherchent vraiment la variabilité. Parce que quand vous goûtez un vin, un jour vous goûtez un vin, vous êtes, oh, vous avez envie de reproduire ce plaisir, reproduire simplement ce plaisir que vous avez eu la première fois. Quand vous goûtez une chartreuse, c'est pas cet univers-là, vous avez envie de goûter une chartreuse parce que chaque bouteille est différente. Et elle va vous amener dans un univers différent. Donc, on peut dire que le monde, j'ai mis du temps à comprendre ça.
Mais c'est-à-dire qu'il y a des millésimes, il n'y a pas de millésimes pour autant.
Il y a des millésimes sur tout. Alors là, on va goûter, je vous ai amené une petite bouteille de 2016.
D'accord.
Mais, et alors, quand il n'y a pas de millésime, il faut savoir qu'il y a un numéro sur chaque bouteille.
Qui permet d'identifier l'année.
Oui, mais non. Ce numéro, vous l'ajoutez à 1084, qui est la date de création de l'or, et vous, ça vous donne un millésime.
Donc c'est un petit calcul à faire.
C'est un petit calcul, non? On est un petit peu là dans le cabalistique.
C'est
assez intéressant. Alors sinon, les familles de chartreuse, il y en a beaucoup. Il y en a à peu près 9 pour faire rapidement. Il y a la verte, donc qu'on trouve facilement, c'est la plus connue. Bon, elle est très forte, elle est un peu râpeuse, elle est mentholée, ça c'est intéressant, mais moi je la trouve un peu sévère, on va dire. On a un petit peu de mal à 55 degrés de passer le cap. La jaune, donc qui est produite seulement un tiers de la production, elle est plus douce, 40 degrés. Là, c'est beaucoup plus tilleul, c'est des notes... Moi, j'avoue que les vieilles jaunes me passionnent davantage que les vertes. Après, il y a la VEP. VEP, c'est le vieillissement prolongé en foudre. Donc, c'est minimum 12 mois. Et donc là, vous commencez à avoir des belles eaux de vie intéressantes. Après, il y a l'élixir végétal. Alors, c'est très marrant. C'est une petite élixir qui fait 69 degrés, mais qu'on pose plutôt sur un sucre, pour les enfants.
Ah oui.
Non, pas pour les enfants, bien sûr. La liqueur du 9e
centenaire. C'est un anti-vomitif.
La liqueur du 9e centenaire, qui a été élaborée en 84, qui existe toujours. Il y a la chartreuse, la 1605, une élixir aussi. Il y a Olivier Poussier que j'évoquais, a créé la liqueur des meilleurs ouvriers de France. Ça, c'est très intéressant parce que ça coûte pas très cher, je prends rapidement les prix. Et puis, il y a le verre, ce que vous avez dans votre verre, oui. Ça s'appelle l'épiscopale. Alors, l'épiscopale, elle a été créée pour Philippe Baudet, je tiens à le citer parce que c'est un personnage incroyable qui travaille au Cave Bossetti, vous savez, dans la rue des Archives à Paris. Et ils lui ont créé, les frères Chartreux lui ont créé une épiscopale. C'est un mélange de 2/3 de chartreuse jaune et 1/3 de verte. Elle est millésimée 2016. J'avais goûté des 2003. Il m'a fait goûter des années beaucoup plus anciennes qui sont fantastiques. Voilà. Et ce que j'aime dans la chartreuse, c'est que vous ne rencontrez jamais personne qui parle de chartreuse sans passion. C'est-à-dire que les chefs, citons Henri Roux à Vienne, qui a une collection incroyable, la Tour d'Argent, la collection la plus folle avec cette fameuse et rarissime chartreuse blanche qui a été produite que dans les années 1900.
Mais d'ailleurs, à aucun moment,
À
aucun moment, Antoine Gerbel, vous nous avez vraiment parlé en détail de recettes. Est-ce à dire que c'est un secret très bien gardé?
Alors, je vous ai amené une petite carte postale. Là, on voit élixir, voilà.
Combien de plantes
cachées? 130 officiellement, oui. 20 qui font la base. Elles sont vraiment secrètes. Et l'équilibre vient du fait que c'est par poignée, les deux moines principaux qui aujourd'hui pilotent l'ensemble.
Oui.
On sont les seuls à avoir cette recette. Ce sont des plantes qui viennent du monde entier.
D'accord.
Bon, on pourrait citer bien évidemment la gentiane, la réglisse, enfin, la menthe, bien évidemment. On peut trouver les 130, mais personne ne connaît exactement ce secret.